Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
15 jours, c'est long, mais quand on patiente, on est d'autant plus content de retrouver notre jardinier France Bleu Armorique. Bonjour Philippe Munier.
Bonjour Léo, bonjour à toutes et à tous.
Pour jardiner en ce dimanche, alors je sais que vous allez être nombreux, nombreuses, on va essayer de pouvoir tous vous accueillir pour pouvoir poser eh bien toutes vos questions à Philippe, puisque il faut dire Philippe, quand même, on change aussi un peu de temps par rapport à ces derniers jours, par rapport à ce qu'on a pu avoir en fin septembre et encore en ce début octobre. Là, on commence à arriver tranquillement vers les températures qui redescendent, donc vous allez peut-être avoir des conseils aussi à nous prodiguer par rapport à ça, je pense, Philippe.
Certainement, mais en fait, pour une fois que la nature, enfin que le cycle des saisons ressemble à quelque chose de normal, et ben tant mieux. Les températures basses cette saison-ci, c'est normal, c'est logique. Les jours sont plus courts, et ben c'est bien. Il pleut, c'est parfait. Il en faut encore, encore et encore. Hein, donc on va essayer de donner des conseils. Surtout le grand conseil que je vais vous donner là tout de suite, mm-hmm. Eh bien il ne faut pas aller piétiner comme ça pour se faire plaisir un sol qui est détrempé. Donc si vous avez votre jardin qui est bien mouillé, eh bien fichez-lui la paix, n'allez pas vous promener dedans. Et si vous êtes obligé d'y aller pour cueillir une salade, pour passer un petit coup de PTB, tiens, justement, hein, voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. D'accord. Eh bien, mettez des planches sur le sol de manière à répartir la charge, à répartir votre poids pour ne pas tasser la terre. Parce qu'une terre mouillée, si on la tasse, eh bien, l'oxygène s'en va. Quand il n'y a plus d'oxygène, eh bien, c'est comme nous, la terre s'asphyxie et c'est pas bien. PTB, c'est prends ta binette.
Ah, bah oui, c'est vrai, mais en plus, je le savais, vous voyez, j'ai pas bien révisé, Philippe. Bon, j'espère que les auditeurs et auditrices auront mieux révisé. Et
c'est un point en moins là.
Voilà,
quand même,
exactement. Je vais me faire taper sur les doigts. Philippe, je vous propose tout de suite qu'on accueille Odile qui est avec nous et qui est à Château-Giron. Bonjour Odile.
Oui, bonjour à vous deux. Merci Philippe pour la réponse que vous allez me donner. Nous avons des chênes centenaires, enfin même plus que centenaires. C'était une vieille allée dans le temps, vous savez, pour des champs. Et nous avons 3 chênes de crevés. Nous avons des champignons qui sont dessus, qui sont incorporés dans le chêne à 20 cm du sol, et nous avions un bouleau qui avait le même truc, il est crevé, et là tous nos chênes, je pense qu'il y a un problème, mais que faire?
Alors que faire? Parce que pourtant les champignons à la saison, on aime bien les avoir, mais pas sur les arbres, on va être honnête.
Ça dépend lesquels,
bien évidemment. Voilà. Alors Philippe.
Alors, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que ce type d'attaque, c'est souvent dû à en fait la mauvaise santé des arbres eux-mêmes, leur sénescence. Tous les arbustes et quasiment toutes les vivaces, et même dans les annuelles aussi, enfin, la plus grande majorité des plantes vivent en permanence en symbiose avec des champignons. Et il y a un équilibre qui se crée, donc le champignon apporte un certain nombre de services à la plante et la plante apporte un certain nombre de services au champignon. Mais le problème, c'est que si la plante est en mauvaise santé, eh bien le champignon prend le pas sur la plante et détruit la plante le plus vite possible pour passer à autre chose. Hein, on la recycle et on repart sur autre chose. Donc, particulièrement pour les arbres, quand les arbres sont malades, sont vieux, hein, bon là, ils ont plus que centenaires, vous disiez, un chêne peut vivre 1000 ans, mais il peut aussi, au bout de 150 ans, parce que les conditions de X, Y, Z, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, de toute façon. Donc, il peut être pas bien.
Le problème, c'est que c'était un chemin avant, il y avait de la terre des deux côtés, mais avec les remembrements, vous savez ce que c'est, il y a eu une construction, donc il y a eu des clôtures, et bon, je pense que tout ça au niveau, ça peut-être...
Ça a dû jouer sur les racines des arbres, et donc, du coup, effectivement, ils se nourrissent moins bien, donc ils n'ont pas la grande forme et les champignons s'occupent de les dégager, si je puis dire, pour faire de la place pour autre chose. Donc, il y a malheureusement rien à faire, il faut laisser les choses se faire. Vous pouvez, pour masquer la chose, parce qu'ils sont... D'une part, ça fait du bois, et puis éventuellement, vous pouvez faire pousser des rosiers dedans, comme ça leur donnera une deuxième vie, jusqu'au moment où, effectivement, il faudra quand même les faire tomber, parce que il ne faudra pas qu'ils tombent sans permission. Surtout quand il y a une voiture ou quelqu'un qui passe en dessous. Voilà.
Mais, pour pas qu'il y ait de danger quand même, Odile, bien non, sûr, non. De l'autre
non,
côté.
Non, bah là, il n'y a pas de danger, ce serait plutôt sur la maison, notre maison, mais bon, je vous remercie, Philippe.
Et, Odile, on vous souhaite une très belle journée du côté de Château-Giron. Bon dimanche, à très bientôt. Au revoir. Accueillons tout de suite Philippe. Yannick est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Alors Yannick, je vous laisse poser votre question à Philippe.
Dans notre salade maintenant, parce qu'au printemps c'était dans les carottes, nous avons des vers gris dans le sol qui nous mangent les racines des plantes, quoi, et finalement les plantes en meurent.
Ah, alors d'où viendraient ces petits vers? Quels sont donc ces...
Des gros vers.
Des gros vers. Ah, c'est pas des petits quand même, c'est des gros.
Non. Il y a des petits vers jaunes aussi, mais bon, ça c'est du topin, c'était une autre race de vers.
D'accord.
Alors, je crains que ce soit des larves de noctuelles, hein, donc c'est des grosses chenilles grises, et quand on les touche, tac, elles se replient sur elles-mêmes. Ce sont des bestioles qui c'est une chenille, c'est fait pour grossir le plus vite possible pour faire un joli papillon après.
Non, mais c'est pas des chenilles, là, c'est des gros vers, hein, ils ont pas de pattes, hein.
Vous avez dit qu'ils étaient quelle couleur déjà, Yannick?
Gris.
Ils n'ont pas de pattes, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de pattes.
Non, parce que on les trouve quand on bêche aussi, quand on retourne la terre. Et ce sont des gros vers, ça fait à peu près 5 mm de diamètre à peu près, et 2 cm, d'avoir 3 cm de long. Quand ils sont vraiment... ils ont mangé beaucoup, quoi.
Quand ils sont...
ils ont bien bouffé toutes les racines des légumes.
Ils sont fait un bon gueuleton, on va dire ça.
Alors, bon... Je pense quand même que vous devriez en reprendre un ou deux s'il y en a encore, hein, si vous ne les avez pas tous zigouillés, parce que les vers, d'une manière générale, quand c'est des vers de terre, ils mangent de la terre, hein, des fragments de matière organique contenue dans le sol. Sinon, la plupart des vers aussi, le taupin est une larve d'insecte, et la noctuelle est une larve d'un autre insecte, et la plupart des bestioles qui boulottent les racines de nos plantes sont en général des larves d'insectes. Hein. Donc c'est pour ça que je regarderai quand même plus attentivement. Il doit y avoir 6 petites pattes quand même. Mais elles sont petites, certainement. Donc si c'est ça, de toute façon, c'est un papillon qui a pondu et qui, donc la larve, elle boulotte rapidement les racines de vos légumes. Alors il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est, qui marche plutôt pas mal d'ailleurs, de pailler les légumes avec du carton ou du papier assez fort, ce qui fait que le papillon, quand il sent qu'il y a quelque chose qui l'empêche de pondre, eh ben il pond pas, il va pondre ailleurs. Donc ça permet de limiter vraiment les attaques. Alors sur les salades c'est plutôt facile à faire, sur les carottes ça l'est un petit peu moins, mais ce type de paillage en plus est très intéressant, parce que les limaces et les escargots adorent bouffer le carton, et donc pendant qu'ils bouffent le carton, ils bouffent pas la salade. Donc ça permet de bien protéger les salades contre les différents agresseurs, et donc d'avoir des belles grosses salades à manger soi-même, et de pas les voir tout d'un coup dépérir, parce que
c'est ce qui se produit, hein, comme les carottes au printemps, il y avait des endroits, c'était 5-6 cm qui étaient mangés des fois.
Tout à fait. Non, mais voilà. Donc, sur les carottes, je vous dis, c'est pas très très facile à mettre en place. Par contre, sur la salade, c'est super facile et ça marche très très bien.
Et ben voilà, bon, une technique.
Bon, je vous remercie.
Merci à vous, Yannick. Très bonne journée. Très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.
Merci.
Un autre insecte dont nous allons parler, dont on a déjà beaucoup parlé, eh bien, c'est celui dont, va nous expliquer les problèmes qu'a Jacques. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Jacques, vous allez nous parler du Carpocaps. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe.
Les pommes, elles sont toutes gantées par le Carpocaps. Une bonne partie, quoi. Il y a un petit point, et à l'intérieur, il y a la larve de la bestiole.
Cette petite bestiole. Alors, il faudrait savoir comment lutter contre le Carpocaps. Et je crois qu'on a déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais ça va être bien quand même de refaire un petit rappel, Philippe.
Voilà, on va faire un petit rappel. Alors, la lutte préventive, c'est ce qui marche le mieux. Hein. En plus, c'est toujours ce qui est le plus astucieux. Alors, comment on peut faire ? D'une part, monsieur et madame Carpocaps, ils convolent en juste noce à l'heure où le soleil se couche et à l'heure, ça tombe bien aussi, où les chauves-souris commencent à voler. Donc déjà, si on attire les chauves-souris dans son jardin, eh bien, il y a déjà une partie des papas et des mamans Carpocaps qui vont se faire boulotter. Ça, c'est la première chose. Oui. Ensuite, la deuxième chose, quand maman Carpocaps a pondu ses œufs sur le pommier, le poirier, le noyer aussi, parce que ça peut attaquer les noyers, les noix aussi, il y a grosso modo 24 à 48 heures entre le moment où la petite, toute petite chenille naît et le moment où elle trouve un fruit pour s'installer. Oui. Pendant ce moment donc, où elle est à l'extérieur, donc il est facile de la choper, eh bien, il y a le spécialiste des chenilles qui s'appelle les mésanges, qui peuvent intervenir. Donc, on met des nichoirs à mésanges dans le verger, en les mettant du bon côté, hein, donc toujours ouvert au sud-est, de manière à ce que, être sûr que les mésanges acceptent de s'installer dedans. Et puis, comme ça, si on a des mésanges à poste, eh bien, ça va faire chuter. Ensuite, lorsque la petite chenille a quand même réussi à rentrer dans le fruit et la première attaque, elle a lieu au printemps, hein, donc général, quand les petites pommes sont à peine en formation, la toute petite pomme ou la toute petite poire tombe avec la chenille à l'intérieur et la chenille sort de la poire, rentre dans le sol et à 2-3 cm de profondeur va faire continuer sa métamorphose. Et là, si dans le jardin, à ce moment-là, dans le verger, on a les poules, eh bien, les poules en grattant vont manger les chenilles. Donc, rien qu'avec ça, on est paré, disons, pour surtout éviter la deuxième attaque, qui est celle donc, qui a lieu en été, au moment où les pommes sont bien, bien grosses, bien belles, bien dodues. Ouais. Et que là, effectivement, s'il y a une attaque de carpeau, ben, les dégâts sont très importants. Donc si on a fait bien attirer les chauves-souris en mettant des nichoirs à chauves-souris, attirer les mésanges en mettant des nichoirs à mésanges, on a 2-3 poules qui traînent à la maison pour transformer son compost, faire des œufs avec, c'est quand même extraordinaire, et ben en plus elles vont aller se promener au pied des pommiers et elles vont nettoyer les carpeaux. Dans la foulée, mettez-les aussi au pied des framboisiers où elles vont nettoyer le vert de la framboise qui lui aussi se métamorphose dans le sol à peu de profondeur, donc il est très sensible à l'attaque des poules. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on est à peu près tranquille. On a une attaque de carpeaux qui est tout à fait limitée, de l'ordre de 10 à 15% à tout casser.
On a une protection, on peut dire ça, avec ces différentes astuces que vous nous avez proposées, Philippe. Bah voilà pour vous, Jacques, pour pouvoir lutter avec les carpocaps. On vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt, Jacques. Merci. Au revoir. 02 99 67 35 35. On vous attend avec vos questions à poser à Philippe Munier, notre jardinier ce matin.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et encore ce dimanche, nous parlons des enfoirés avec ce week-end spécial. Je vous rappelle que les enfoirés ont ouvert à leur billetterie vendredi pour le concert 2020, le Paris des enfoirés. On en profite pour écouter leurs meilleurs morceaux avec notamment le bon temps du rock'n'roll. Rock'n'roll! instant du rock'n'roll. La voix de Johnny et la troupe des Enfoirés sur France Bleu Armorique.
France Bleu avec notre temps présente l'Almanach 2020. Voyagez dans les plus belles régions de France, redécouvrez les trésors de notre patrimoine et apprenez les origines de la langue française. Plus de 500 jeux de conseils pour rester en forme et des idées pour jardiner et cuisiner. L'Almanach 2020, un livre France Bleu Notre Temps, déjà disponible dans vos points de vente habituels. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Radio France, partenaire de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, en faveur des personnes âgées hospitalisées.
Ce que vous venez d'entendre, c'est René qui souffle ses 80 bougies au Petit Bretonneau, le charmant petit bistrot d'un hôpital parisien. Le Petit Bretonneau est l'un des nombreux projets soutenus par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Grâce à vous, nous avons le pouvoir de rompre l'isolement à l'hôpital. Faites un don sur fondationhôpitaux.fr.
Toutes les informations sur radiofrance.fr.
France Bleu Armorique. France Bleu. Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir poser vos questions à Philippe, notre jardinier, avec notamment Huguette qui nous a rejoint ce dimanche. Bonjour Huguette.
Oui, bonjour Philippe et bonjour Daniel. moi, je vous appelle comment pasteuriser du compost. Je fais du compost jardin.
Oui.
Je pense pas que c'est le bon appareil parce que c'est un composteur plastique. Mais j'ai trouvé dedans je pense que c'est des taupins. Mmh. Et ben, je sais pas comment faire pour m'en débarrasser.
Ah. Alors, Philippe, pour le compost, que pourrait-on faire ?
Alors, en fait, dans un composteur, c'est un énorme fermenteur biologique, et il y a des bactéries, des champignons, mais il y a aussi tout un tas de macro-organismes. Il y a des cloportes, il y a éventuellement du taupin, il y a des larves lucanes, voilà. Mm-hmm. Mais pas que, des cétoines aussi, voilà, c'était celui-là que je cherchais. Il y a vraiment tout un tas de bestioles, et toutes ces bestioles-là, elles participent à la dégradation du compost. La seule chose à faire, lorsque vous emmenez le compost dans le jardin, c'est de tamiser votre compost avant de partir, de manière à ce que toutes les bestioles, vous récupérez que le compost fin, et vous gardez tout ce qui est mal décomposé et les bestioles, mm-hmm. et vous les remettez à bosser dans le composteur, de façon à bien garder tous ces ouvriers que vous ne payez pas, hein, qui se nourrissent sur votre dos, si je puis dire, et donc de les remettre au boulot, et vous emportez que votre compost bien affiné dans le jardin, et dans ce cas-là, vous ne risquez pas de mettre des taupins au milieu des salades, ce qui serait quand même un petit peu embêtant. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, on peut pasteuriser ou stériliser du compost, mais là, c'est quand on fait des semis très, très spécifiques, et dans ces cas-là, il faut petit peu par petit peu les mettre, par exemple au micro-ondes, ça marche plutôt pas trop mal, ou dans la cocotte minute, avec un petit peu d'eau, très très peu d'eau, et on stérilise à la vapeur, mais c'est que pour quand on fait des semis très spécifiques, avec où il faut vraiment avoir des conditions stériles pour que la plante puisse se développer, les jeunes plantes puissent se développer sans risque d'être attaquées. Mais pour du compost qui va dans le potager, il suffit simplement de le tamiser et de laisser toutes les bestioles sur place.
Exactement, comme vous l'avez dit, c'est des petits ouvriers qui bossent pour vous. Et puis en plus, vous avez juste à les nourrir, vous n'avez pas à les payer, vous avez à les loger quand même dans le compost, il faut le voilà. dire, dans le composteur.
Et si on leur met une poignée de choux vives?
Pourquoi vous voulez les tuer, ces pauvres bébêtes? Elles vous ont rien fait.
Huguette.
Elles bossent pour vous. Elles travaillent pour vous. Donc, faut pas les tuer. Alors, mettre de la chou-vive dans un compost, c'est pas une bonne idée. D'abord, travailler de la chou-vive, c'est dangereux. Hein, première chose. Hein. Donc, on fait attention. Les oxydes de chaux sont. Ça brûle les mains, ça brûle les yeux, ça brûle les voies aériennes supérieures. Donc, si on utilise ça, on fait très, très attention. Et puis, en plus, il n'y a aucun intérêt à mettre de la chou-vive sur du compost, il n'y a vraiment aucun intérêt. Il y a juste à passer un petit coup de de tamis et hop, vous emportez le joli petit compost fin et vous laissez tout le monde bosser tranquillement dans votre composteur et ça se passe très très bien comme ça, il n'y a pas de souci.
Laissons-les ces petits insectes, hein, ce sont nos colocataires, on va quand même en avoir besoin. Voilà donc Huguette pour pouvoir eh bien, ensuite profiter de votre compost, vous prenez surtout le tamis, je crois que ça va être le meilleur ami. Je vous propose d'accueillir tout de suite Janine, Philippe, on va accueillir Janine qui est à Dinger. Bonjour Janine.
Oui, bonjour monsieur.
Janine, pour nous expliquer, vous avez des soucis avec du houx, c'est ça ?
J'ai un houx dans une grande réserve, un houx sur tige, mais un houx pas lâché.
D'accord.
Et depuis un moment, il y a des feuilles qui deviennent jaunes et qui tombent. Je voudrais savoir si on peut faire quelque chose.
D'où ça viendrait ces feuilles qui tombent, ce houx ?
Alors déjà, le houx a des feuilles persistantes, mais ce ne sont pas des feuilles immortelles. Donc, il y a forcément une régénération de feuilles. Donc, il y a, en général, deux fois par an, une fois à la pousse de printemps, une fois à la pousse d'automne, qui se fait en ce moment, il y a les feuilles les plus vieilles sont éjectées, on les retrouve donc par terre.
Oui, mais il y en a beaucoup.
Alors, voilà, c'est le problème, c'est ce qu'il faut voir, c'est surtout si ce sont des feuilles qui viennent de l'intérieur, et dans ce cas-là, c'est logique, ou si ce sont des feuilles qui viennent de l'extérieur, et dans ce cas-là, c'est pas logique du tout.
De l'extérieur.
Alors, si c'est l'extérieur, eh ben, y a un problème. Alors, ça peut être un problème de soif, hein, parce que il a fait très chaud en Bretagne cette année.
Oui, j'y ai pensé à ça.
Hein, donc ça peut être tout simplement un problème de soif et c'est pas ce qui est tombé qui a beaucoup mouillé les sols.
Non, il a été arrosé cet été quand même. Hein.
Vous avez dit, ouais. Janine
qu'il a été arrosé.
Il a été arrosé quand même cet été, oui.
Alors, soit c'est ça, soit c'est un problème de champignons, hein, qu'on en revient à la première question de cette émission, hein, où effectivement un arbre, quand il devient sénescent, malheureusement, c'est les champignons en général qui s'occupent de son cas et qui le transforme le plus vite possible en humus de manière à pouvoir laisser la place aux autres. C'est le cycle de la vie, c'est assez normal. Voilà, je vois guère que ces deux choses-là, soit une attaque ou alors peut-être il a tout bêtement un petit peu faim, hein, et dans ce cas-là peut-être qu'un très beau paillage ou un très bon apport de compost lui ferait du bien.
Je l'ai fait.
Alors le compost, faut faire attention, hein, on le met pas sous l'arbre, on le met bien en bordure des feuilles, hein, les racines qui nourrissent.
Mais pourtant, il est sur tige.
Oui, mais c'est pas grave, il est sur tige, il a quand même un houppier. Il est pas parfaitement vertical.
Si.
D'accord, bon, alors dans ce cas-là, effectivement, s'il est parfaitement vertical, vous pouvez le mettre juste sur le tronc, mais de toute façon, les racines, elles s'écartent forcément du tronc. Donc, il faut ne pas mettre le compost contre le tronc, mais plutôt au niveau des racines.
Bordures, du pot.
Ah, mais il est dans un pot ?
Oui.
Ah, mais vous ne m'avez pas dit ça.
Vous pensez qu'il était en pleine terre, vous, Philippe ?
Oui, non,
il est dans un pot.
Il est dans un pot.
Sur une terrasse.
D'accord. Ah oui, alors là, dans ce cas-là, faites très très attention quand même à cette notion d'arrosage, d'une part. Alors, il faut faire très attention pour les plantes en pot. La difficulté, c'est soit elles sont trop arrosées et dans ce cas-là, elles perdent leurs feuilles, soit elles ne sont pas assez arrosées et elles perdent leurs feuilles aussi. Les symptômes sont les mêmes, mais la cause n'est pas de la même. Donc, il faut faire très attention si...
cet été.
Oui, d'accord, mais le problème, c'est surtout qu'il n'est pas... Maintenant, en ce moment, vous ne l'arrosiez pas trop ou pas assez. Il faut continuer à l'arroser. C'est une plante, donc les feuillages persistants, ils ont besoin d'eau toute l'année. Donc, il faut bien vérifier qu'il ait la quantité d'eau dont il a besoin et surtout bien vérifier qu'il n'en a pas trop parce que sinon, il perd ses feuilles aussi parce que les racines sont en train de pourrir. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et ça peut être, donc, du coup, soit la soif toujours, hein, soif ou excès d'eau, pour le coup, il faut vérifier les deux. Et ça peut être aussi que le pot devient un peu trop petit ou que le support de culture est peut-être un petit peu pompé suffisamment. Donc il faut peut-être envisager de le rempoter. Et on est en une très bonne période pour rempoter une plante à feuillage persistant.
D'accord. Donc il faut observer bien si c'est...
Et sur passage, ça ne suffit pas.
Ça dépend depuis combien de temps il est dans le pot. Et quelle est la taille du pot ?
5 ans.
Ouais, 4 ou 5 ans, ça lui ferait peut-être du bien d'être dans un pot juste la taille d'au-dessus, peut-être.
D'accord.
Peut-être.
Voilà. Regardez donc bien tout ça, Janine, et puis on vous souhaite une très belle journée.
Bonne
à Dinger. À bientôt.
Merci.
Au revoir. Accueillons Marie qui est avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Et Marie, oui, alors j'entends la radio. J'entends la radio derrière. Je vous invite
J'ai éteint.
Ah, super, vous attendiez juste qu'on vous appelle. Alors Marie, je vous laisse poser votre question à Philippe.
Oui, bonjour Philippe et Marie. Donc moi j'ai un prunier qui a perdu ses feuilles il y a bien maintenant un mois, qui était noir, et je trouve que les branches et le tronc noircissent également.
Alors, d'où ça viendrait cette maladie?
Alors déjà, s'il a perdu ses feuilles il y a un mois, c'est pas normal du tout. Hein, donc,
Non, parce que mon voisin, ses feuilles sont bien vertes et sont encore en plein sur l'arbre, quoi.
Je sais pas ce qui se passe en Haute-Bretagne en ce moment, mais voilà, il y a des attaques de champignons terribles. S'il a perdu ses feuilles, c'est très 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 mauvais signe. Et si en plus vous avez l'impression que les branches et le tronc changent de couleur, c'est encore plus mauvais signe. Je sais pas trop quoi vous dire. Moi, sur des fruitiers, dès qu'un arbre commence à être malade, je préfère l'enlever pour pas qu'il contamine les autres fruitiers. Parce que souvent, ils sont un petit peu tout le monde dans le même quartier. Donc, on en laisse un de malade, il risque de contaminer les autres. Donc, personnellement, dès qu'il y en a un qui a plus la grande forme, je le supprime. Voilà. C'est assez radical, mais bon, ça permet de conserver les autres en bonne santé. Donc, voilà, je vous conseillerais ça. Vous pouvez aussi tenter de voir ce qui se passera.
C'est pas possible.
C'est quand un arbre comme ça qui tout d'un coup, quasiment deux mois avant la période normale, perd ses feuilles, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Après, vous pouvez tenter le coup de creuser pour aller regarder l'état des racines avant de le supprimer, mais. Voilà,
vous n'avez pas un bon diagnostic.
Allez voir. Ouais, j'ai peur du diagnostic, tout à fait. Donc, tentez le coup peut-être.
Encore au printemps, il était plein de fleurs. Il était magnifique. C'est ça qui est curieux.
Alors après, s'il a attrapé, comme vous disiez, un champignon ou autre, Philippe,
ça va très très vite. Hein, c'est ça le problème. Hein.
Donc, c'est bien triste.
On est désolé, Marie, de cette nouvelle. Regardez quand même les racines, comme on disait, peut-être.
Oui,
on ne sait jamais.
D'accord.
Et puis voilà.
Merci
bon dimanche tout de même, Marie. À bientôt. Au revoir. Bah oui, c'est des fois ça aussi hein, avec la nature. Hein. On ne peut pas toujours avoir la solution. Hein. Des fois, il faut, comme vous le disiez, Philippe, enlever les arbres pour éviter qu'ils contaminent les autres. Et puis ensuite, on profite des autres. On essaye peut-être de voir ce qu'on peut faire pour que les autres soient...
On en replante un, pas au même endroit, surtout pas.
Exactement. C'était ce à quoi je pensais. Philippe, vous allez continuer de répondre aux questions de nos amis d'ici quelques minutes sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et voici tout de suite Ed Sheeran et Justin Bieber avec I Don't Care sur France Bleu Armorique. I'm at a party, I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie, yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around and crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Stay.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care.
Chiran, Justin Bieber, I Don't Care sur France Bleu Armorique. Et on continue de parler jardin d'ici quelques minutes.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000!
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Bon, là, c'est pas tout ça, Chantal là-dessous, mais Akena par-ci, Akena par-là, vous n'avez qu'Akena à la bouche. Mais question innovation, c'est quand même pas très clair, excusez-moi.
Clair quoi, clair? Le vitrage? Vous ne connaissez pas le vitrage sèche-glace?
Bah non, ça sert à quoi?
C'est une innovation de Saint-Gobain adaptée pour Akena, qui régule la lumière et la chaleur dans la véranda. Est-ce bien clair pour vous, chère madame?
Bah oui.
Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
On a tendance à penser que pour être mieux protégé, il faut payer plus. C'est une erreur. À partir du 1er novembre 2019, avec la nouvelle complémentaire santé solidaire, l'accès aux soins médicaux pour tous n'a jamais été aussi large, aussi simple et si peu coûteux. C'est un vrai progrès.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rendez-vous sur amélie.fr pour faire une simulation ou appelez le 0800 971 391 du lundi au vendredi.
L'assurance maladie.
0800 971 391, service et appel gratuit.
France Bleu Armorique. Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Philippe qui essaye de vous apporter des éléments de réponse pour pouvoir entretenir vos plantes, vos arbres, vos jardins. Nous avons Romain qui est à Saint-Méloir-des-Ondes et qui nous a rejoint ce matin. Bonjour Romain.
Bonjour.
Romain, je vous laisse poser votre question à Philippe.
Bonjour Philippe. Donc oui, j'ai une question. Ma question c'était, j'ai du datura dans mon champ. Comment je fais pour m'en débarrasser?
Alors datura déjà, c'est quoi Philippe? Dites-nous.
Alors le datura, c'est donc celui qui doit être dans le champ comme ça, c'est certainement le datura stramoine. Oui. C'est une très jolie plante avec des jolies fleurs en trompette blanche, avec un parfum tout à fait délicieux. Alors dit comme ça, on se dit, oh, bah, c'est super d'avoir ça dans le champ. Oui, sauf que c'est une plante qui est particulièrement toxique, donc vénéneuse, on va là carrément, hein, voilà, elle est méchante, vraiment, elle est toutes les parties. Donc la seule solution, c'est d'aller l'arracher à la main, en faisant très attention de porter des gants parce que la sève est toxique. Et puis on fait très attention aussi au devenir de cette plante, c'est-à-dire que normalement, si vous l'emportez en déchetterie, il faut prévenir le personnel de la déchetterie parce que dans la plupart des cas, elle n'est pas mélangée au compost. juste. Alors, en fonction des départements, je sais qu'il y a des cellules de crise, donc il est vilaine, je sais pas, je sais qu'en Côte d'Armor, il y a des gens qui s'occupent spécifiquement des plantes invasives et du datura en particulièrement, comment dirais-je, détruire les plantes correctement. Donc, renseignez-vous auprès de la Chambre d'agriculture, ils vous donneront certainement un endroit où aller pour faire détruire la plante, parce qu'il ne faut pas l'acheter n'importe où. C'est une plante qui a une capacité de reproduction phénoménale, et il faut se dépêcher de l'arracher avant qu'elle ne fasse des graines, parce que quand les graines sont mûres, c'est des milliers de graines, le gros fruit qui ressemble à une pomme épineuse, et plein de graines, c'est vraiment donc une capacité de nuisance très très forte. Donc on arrache à la main, ensuite, en portant des gants, on met ça dans des sacs bien fermés et on contacte la Chambre d'agriculture pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir faire détruire ces plantes.
Bon, bah, j'ai cru comprendre, Romain, qu'il va falloir mettre un peu d'huile de coude pour pouvoir les enlever dans le champ, ces datura, et mettre les gants. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner, comme le disait Philippe. Peut-être déjà, il y a quelques informations, je pensais, sur le site, par exemple, de la Chambre d'agriculture. Si ça se trouve, il y a quelques liens ou en tout cas infos si on souhaite se débarrasser de ce genre de plantes. Mais c'est bien quand même, Philippe, d'avoir rappelé que c'est assez toxique et qu'il ne faut pas les mélanger.
Ah, c'est pas assez, c'est très toxique. On va être très très clair là-dessus. Voilà. C'est très toxique. Voilà.
Donc on y fait attention. Voilà donc, Romain, les éléments de réponse qu'on a pu vous apporter ce matin. On vous souhaite une belle journée, un bon dimanche.
Merci, bon dimanche.
À bientôt. À vous. Au revoir. Eliane est avec nous. Bonjour, Eliane. Eliane, êtes-vous là?
Bonjour à tous les deux.
Eliane, alors ce n'est pas un problème avec les plantes, mais avec un petit animal qui est présent dans votre jardin. Expliquez-nous,
oui,
Eliane.
Oui, que Philippe adore. Moi, je leur fais jamais de mal non plus, mais là, elles exagèrent. Elles ont envahi un petit terrain que j'ai, vous savez, un ancien passage pour les bêtes, les vaches et tout ça. Donc, c'est un petit terrain qui fait, je sais pas, 50 mètres carrés peut-être, et dans lesquels j'ai arrêté de compter les taupières au bout de 40. Ce petit chemin-là, cette petite pelouse est complètement dévastée. Et je voudrais savoir, bon, j'ai fait comme dit Philippe, j'ai étalé les taupières. La pelouse a bien repoussé depuis qu'il pleut bien, là, mais tout l'été, elle a été affreuse. Et je voudrais savoir si elles vont revenir l'année prochaine.
Ah, donc ces taupes, vous êtes un peu embêtée par ces taupes.
Bah oui, j'ai envisagé à un moment donné de la refaire, parce que c'est pas belle, évidemment. Mais si je la refais et puis que ça recommence l'année prochaine, alors elles sont parties en allant dans la grande pelouse qui est derrière et à côté, mais le long des haies, donc là, ça ne me dérange pas si elles ne vont pas au milieu.
Bah oui, il faudrait leur dire, vous envahissez pas, voilà, vous leur envoyez un petit mot, comme dans les appartements, quand on met des petits mots, quand on fait les fêtes et tout, faites attention, respectez les uns les autres. Alors Philippe, est-ce qu'il y a peut-être une solution ou pas ?
Malheureusement non, parce qu'en fait qu'est-ce qu'elle fait la taupe, elle fait de manière un peu brouillonne, mais elle fait un travail très très important qui est de manger les vers qui eux mangent votre gazon par le dessous. Donc effectivement la pelouse est abîmée par les taupinières, mais elle aurait été encore plus abîmée si les vers avaient pu se développer et avaient boulotté toutes les racines de votre gazon. Donc ça serait des plaques de gazon qui auraient disparu. Donc l'un dans l'autre, le travail des taupes est moins embêtant que le travail des vers qu'elle a mangé. Donc s'il y a encore des bestioles à manger, elles reviendront. S'il n'y a plus rien à manger, elles ne reviendront pas. La taupe, elle a besoin de manger en permanence quasiment. Elle ne peut pas rester plus de 20 minutes sans manger. C'est vraiment une bestiole qui en chasse permanente. Si elle est là, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour au contraire manger les bestioles qui...
Elle est forcément partie ailleurs, puisque j'ai vu le chemin qu'elles avaient pris. Ah bah, ça inquiétait beaucoup mes voisins qui se disaient, bah, nous, on ne les veut pas. Donc, bien sûr, je les ai gardées gentiment, mais bon.
Alors, de toute façon, vous pouvez pas tellement jouer là-dessus, parce que les taupes ont un réseau de galeries absolument extraordinaires, et donc c'est très 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 élaboré. Il y a des galeries d'aération. Elles passent tous les jours pour vérifier que toutes les galeries d'aération fonctionnent bien. Donc voilà, on sait pas trop par où elles se baladent, parce que il y a vraiment une des galeries un peu partout dans le sol, mais elles ne viennent faire des taupinières, donc chasser, c'est de la chasse qu'elles font, que lorsqu'il y a à manger.
Hein, c'est pas. Mais là, elles sont parties ailleurs.
Si elles sont parties ailleurs, c'est que. C'est qu'il n'y a plus à manger là où, donc il y a une probabilité qu'elle ne revienne pas tout de suite.
Voilà, la cantine n'est plus bonne chez vous, Eliane. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon, écoutez, j'espère qu'avec ces petites colocataires, vous allez réussir quand même à vous en sortir et qu'elles vont aller peut-être manger.
Bien sûr, quand elles restent dans ce petit terrain-là et le long des haies, ça m'est égal. Mais si elles vont dans la grande pelouse partout, alors là, ça ne va pas me plaire. Bon. Mais c'est déjà arrivé. Mmh. Puis maintenant, ben, quand je monte sur ma tondeuse, je saute pas mal à ces endroits-là.
Oui, ça doit faire un peu un effet montagne russe. Bon, bah, écoutez.
Alors, 85 ans, c'est pas très agréable.
Bah, je vous avoue, mais c'est un peu compliqué. Eliane, merci à vous, en tout cas, de votre bonne humeur. Ça nous aura bien fait rire, en tout cas, nous, de notre côté, ici, merci à France Bleu Armorique. On vous souhaite une très belle journée. Annick est avec nous à Carreau. Bonjour, Annick.
Bonjour à vous deux.
Alors, Annick, petite question concernant un figuier. Expliquez-nous.
Oui, toujours mon figuier. Ça fait la troisième fois que j'appelle Philippe. Mm-hmm. Donc, je l'ai appelé il y a à peu près, donc, la dernière fois, un an.
Oui.
Parce que mon figuier, il marche d'une façon un peu bizarre.
Ah. Il marche pas comme les autres, votre figuier.
Non, du tout, du tout.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous.
J'ai un figuier, normalement, qui devrait faire des fruits, comme tous les arbres fruitiers au printemps. Mm-hmm. Le mien, il est fait actuellement,
oui.
C'est-à-dire à partir du mois d'août à peu près. Et quand j'ai eu Philippe il y a un an à peu près, hein, quelque chose près, il m'avait dit au mois de mars de le diminuer d'un quart. Donc tous les bouts des branches qui avaient des figues, fallait le tailler.
D'accord.
Chose que j'ai fait, j'ai tout taillé mon figuier. Il est d'une beauté pas possible. Et donc il n'y a pas eu de fruits donc de l'été. Mmh. Et là, depuis fin août, monsieur commence à refaire des figues. Il a des jolies figues qui sont de la grosseur à peu près d'un œuf du pigeon.
D'accord.
Donc, ces figues ne mûriront jamais. Voilà. Ouais, donc, j'ai suivi les conseils de Philippe et il recommence encore à
Bon, alors il va falloir lui expliquer la chose de manière un peu plus comment dirais-je, sévère, mais en fait la taille que vous avez faite au printemps, refaites-la maintenant, la même, c'est-à-dire que vous supprimez toutes les figues maintenant de manière à ce que à provoquer chez lui une réaction et qu'il fasse ses fruits donc au printemps et non pas maintenant. Donc en le taillant maintenant, vous allez provoquer j'espère en tout cas, voilà, un choc, oui, tout à fait, un choc qui ferait que, en fait, il va réagir en faisant des rameaux au printemps qui, je l'espère, seront porteurs de figues au printemps et pas à l'automne.
Mmh. Il a pas envie de faire comme
tout le monde. Oui, parce que je vous dis, fin août, je me suis aperçu, il y a des petites boules. Bon, j'ai des petites boules, c'est les figues. Et effectivement, depuis que je l'ai taillé au mois de mars, il m'a fait des pouces d'au moins entre 50 et 70 centimètres. Mmh.
Ouais, c'est ces pousses-là qu'il va falloir tailler. Donc vous supprimez tous les rameaux porteurs de figues,
oui.
Et de manière à l'inciter vraiment à redémarrer, non pas tranquillement en fin d'été, mais au printemps.
On y va un peu plus fort, voilà. Dans ces cas-là. Il n'a pas envie de faire comme tout le monde, ce figuier, j'ai l'impression, ouais. Danick. Bon.
C'est-à-dire que normalement il y a deux récoltes dans un figuier, une au printemps, une deuxième à l'automne. Mais quand effectivement la température fait que la figue va pouvoir mûrir en Bretagne, malheureusement. C'est pas vraiment ça, mais avec le réchauffement climatique, on va peut-être y arriver.
Mais on n'y est pas encore.
Mais du coup, c'est que le sud de la France, il n'y aura plus de figues, donc ça sera la Bretagne qui sera productrice de figues, ça sera embêtant. Voilà. Ça... donc en attendant, il faut qu'il fructifie au printemps pour mûrir en début d'été. Et là, dans ces cas-là, on peut récupérer les figues sans problème.
Soyez donc un peu sévère avec lui, Annie, comme le disait Philippe. Voilà donc le conseil ce matin. Philippe, on va se retrouver d'ici quelques minutes pour continuer de parler encore un peu de jardin.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 54 ans. Certes, je ne suis pas fortuné, mais cela ne m'empêche pas d'être solidaire. J'ai décidé de faire bénéficier le Secours Populaire de mon assurance vie, car je lui fais entièrement confiance pour aider les personnes les plus démunies près de chez moi.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
Alors,
Chantal Latsou, quel est le secret de votre bonne humeur?
Chez moi, c'est naturel. Je suis parfaite, je n'y peux rien.
C'est vrai?
Non. En vrai, quand j'ai un coup de mou, je vais dans ma véranda à Kenna et là, j'oublie tout. Au revoir la grisaille. Ma véranda à Kenna, c'est mon oasis de bonheur. Ma bulle de douceur. Ben, ne le répétez pas, hein. On va me prendre pour une cinglée. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
France Bleu Armorique.
France Bleu.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Philippe, encore avec nous pendant deux petites minutes. Alors Philippe, on va revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure concernant le datura qui envahissait, je crois, les champs de Romain. Vous êtes un peu renseigné entre deux.
Oui, alors en fait, j'ai effectivement cherché. Et en fait, quand on trouve du datura, il faut prévenir la Fredon. Bretagne, donc Fredon, c'est un organisme donc, qui s'occupe de tout ce qui est justement plantes invasives, produits chimiques, etc. etc. Donc la Fredon Bretagne, c'est fredon@fredon-bretagne.com et ça permet donc de cet organisme-là donnera donc le protocole très précis à notre auditeur de façon à, d'une part, à bien arracher la plante, à ne pas se contaminer, donc porter des gants, ça c'est évident, mm-hmm. et puis surtout savoir où elle va pouvoir être incinéré parce qu'il y a un protocole bien spécifique. Donc, l'Afrodon pourra lui donner toutes les informations.
Ou la déposer. Parce qu'on le rappelle, si vous avez des datura, n'allez pas vous amuser peut-être à les brûler ou à les mettre dans votre compost. On a dit, c'est toxique cette plante. C'est bien de le rappeler encore une fois, Philippe.
Oui, c'est surtout dans le compost, à la limite, c'est pas grave parce qu'elle sera décomposée. Mais le problème, c'est surtout que, de ne pas risquer de ressemer les graines parce que c'est une vraie catastrophe. Et c'est une catastrophe pour le bétail, mais c'est aussi pour les cultures parce que quand il y a des datura dans une culture, eh bien, la culture ne peut pas être vendue. Donc, c'est un petit peu embêtant.
Attention, attention. Donc, encore une fois, vous nous avez prodigué de bons conseils en ce dimanche. Merci à vous. Philippe, on se retrouve dimanche prochain, vous êtes d'accord?
Ah, mais avec grand plaisir, il n'y a pas de souci.
On se retrouve dans ces cas-là dimanche prochain, à partir de 9h. En profitez bien, en tout cas, pour ce dimanche, Philippe. À bientôt.
Bon dimanche, salut.
Merci,
Léo.
Au revoir. Merci d'avoir choisi France Bleu Armorique en ce 20 octobre, il est 10h. Le journal, c'est avec vous, Loïc Guélec.
Et on commence par le rugby. Pays de Galles, France, en ce moment en quart de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus sont bien entrés dans la partie. Ils mènent 19-10 contre les Gallois. La première mi-temps n'est pas encore terminée au Japon. On passe au football. C'est la reprise pour le Stade Rennais. Après deux semaines de trêve internationale, les Rouges et Noirs jouent sur la pelouse de Monaco cet après-midi à 17h. Ce sera en direct sur France Bleu Armorique. Rennes reste sur une série de 8 matchs sans victoire en Ligue 1 depuis le 25 août. Les Rouges et Noirs ne sont que 11e ce matin de Ligue 1, mais Monaco n'est que 18e.